L'écriture ne tombe pas du ciel. C'est un podcast présenté par le collectif Murmuration qui rassemble 10 drôles d'oiseaux passionnés d'écriture. On y parle donc d'écriture, de création, de nous et de nous en tant que collectif. Les épisodes seront animés par deux d'entre nous et ponctués de notes vocales enregistrées par d'autres membres du collectif et, de temps en temps, un intervenant extérieur. Aujourd'hui, nous sortons de notre format habituel pour vous présenter un épisode hors série. Je suis Juliette et j'ai eu le plaisir d'interviewer l'auteur Jovitek, qui a écrit de nombreux livres pour enfants et adolescents. Bonjour Jovitek, merci d'avoir accepté notre invitation et de me recevoir chez toi pour ce premier épisode hors série du podcast « L'écriture ne tombe pas du ciel ». Donc cet épisode sera dédié à la question de l'écriture pour la jeunesse dont tu es, on peut le dire, une grande spécialiste après avoir publié de nombreux livres écrits pour ce public-là. Et avant de commencer, je vais peut-être faire une petite présentation pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas encore. Donc aujourd'hui, tu es auteur de livres pour la jeunesse, édité aussi bien chez Actes Sud, Flammarion, Le Seuil, Talent Haut ou encore La Martinière. Mais l'écriture n'a pas tout de suite été au premier plan dans ton parcours, puisque tu as commencé d'abord par le théâtre. Donc tu es né en région parisienne en 1968, tu as fait des études d'art dramatique et tu t'es lancée dans la vie d'adulte en tant que comédienne, conteuse et animatrice d'ateliers théâtre pour enfants. Mais déjà à cette époque, l'écriture n'était pas très loin, puisqu'elle est assez arrivée dans ta vie assez rapidement. Tu as commencé à travailler pour le cinéma en tant que lectrice et script doctor, c'est-à-dire que tu relisais des scénarios dans le but de les améliorer. Et comme beaucoup d'auteurs, tu as fait une multitude de boulots, plus ou moins reliés à l'écriture, comme journaliste, rédactrice, mais aussi serveuse, ouvreuse dans des théâtres, ouvrière et même DJ. Voilà, on a tous des vies plurielles et différentes. Et en 2002, donc, tu quittes Paris pour t'installer dans le sud de la France, dans cette magnifique région où nous sommes actuellement. Et depuis 2008, tu écris plus particulièrement pour la jeunesse, des romans pour les enfants, pour les adolescents, des récits documentaires et des albums pour les petits. Et donc à ton actif, une quarantaine d'ouvrages quand même et de nombreux prix littéraires. Ton dernier roman, qui est sorti en 2021 chez Actes Sud Junior, s'intitule « J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle ». Et ça raconte l'histoire d'une adolescente qui est mariée de force et qui va faire preuve d'un courage assez incroyable pour échapper à ce destin dont elle ne veut pas. Enfin, c'est un très beau livre que j'ai pu lire l'été dernier et que je conseille à tous. Et par rapport à ce parcours riche et varié, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a frappée en lisant le début de « J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle ». C'est cette scène du début qui est très visuelle, où on suit l'arrivée de la jeune fille dans son village au début des vacances scolaires. Elle est à mobylette derrière son oncle Blabla qui conduit la mobylette. On a les kilomètres de piste, on a le soleil, on a la poussière, on a les enfants qui arrivent pour accueillir la jeune fille. Et je me suis vraiment imaginé la scène comme dans un film, justement. Et donc, je me suis demandé si ce passage, justement, par le cinéma, avait nourri ton écriture et t'avait apporté un peu cet aspect très visuel dans tes scènes, dans ton écriture.
Évidemment, le cinéma est ultra présent quand j'écris parce que je suis spectatrice de cinéma depuis très longtemps. Je ne vais pas dire cinéphile, parce que derrière cinéphile, il y a des gens, qui, comme mon conjoint par exemple, qui se souvient de tout, du nom du réalisateur, dans quel ordre. Je n'ai pas cette intelligence-là. Je n'ai pas une hypermémoire, j'ai plutôt une hypomémoire. Par contre, j'ai une grande émotion. J'ai une mémoire émotionnelle, on pourrait dire. Mais bon, j'en ai bouffé du film quand même. Et ça me fascine toujours. Et pour ce sujet, j'en ai revu pas mal autour de ça, Mustang entre autres, et puis d'autres, Noces. Et puis j'ai voyagé aussi beaucoup, Moyen-Orient, Afrique, mais Mongolie aussi. Et la scène se pouvait se passer là-bas. Donc oui, j'ai besoin de voir. Souvent, j'ai besoin de voir. Aujourd'hui, on n'a plus tellement à décrire, à faire de longues descriptions. Mais on a une mémoire commune, et cette mémoire commune, c'est une mémoire cinématographique aussi. une mémoire de photojournalisme, une mémoire... Donc, il suffit de quelques détails, la mobilette, un désert, la poussière, et on a tous en commun. On les a vus, ces images. Et c'est ce qui est assez magique dans l'écriture contemporaine, je trouve. C'est comment, par où j'entre, quel est le détail qui fait qu'on me comprend. Et ça, je le travaille pas mal. Et pour celui-là, j'ai beaucoup travaillé l'ombre et la lumière, parce que je voulais une dimension tragique, presque théâtrale, pour aussi donner à ce récit un aspect intemporel, universel. Voilà. Donc j'ai travaillé de façon cinématographique. Effectivement, il y a beaucoup d'ombre, la lumière, des plans serrés et des scènes très cut.
Oui, sur le côté atemporel et universel, justement, l'histoire, elle n'est pas située. Enfin, voilà, tu as voulu ne pas nommer, on va dire, un pays ou un endroit où ça pourrait se passer pour que ça puisse finalement... on peut dire cette histoire, elle peut se passer dans plein d'endroits du monde différents, et ce qu'elle raconte finalement va nous toucher où qu'on soit, et quelle que soit la période qu'on vit.
Oui, parce que c'est trop facile. Souvent c'est ce qu'on fait, nous occidentaux, de notre jolie place là, on donne des leçons. Oh là là, eux encore, eux encore, mais c'est depuis la nuit des temps et depuis toujours, c'est là. L'enfermement des femmes sous domination d'un père puis d'un mari, enfin je veux dire, ça, c'est uniquement le 21e siècle qui commence à se dire oh les gars, non. Donc je voulais enlever le folklore et dire que c'était une affaire qui nous concernait, qui concernait l'histoire de l'humanité, qui concernait les trois monothéistes et au-delà, au niveau des religions. Toutes les couleurs de peau, tous les systèmes, toutes les organisations de société. Donc c'est profond, c'est beaucoup plus profond que de montrer du doigt l'Afrique subsaharienne ou une partie de l'Asie.
J'ai l'impression que dans plusieurs de tes romans, tu traites de sujets de société qu'on peut qualifier de sensibles, en tout cas des choses importantes. Donc il y a cette question du mariage forcé dans ce roman-là. Il y a aussi dans ton roman « Mauvaise connexion », tu parles quand même de pédocriminalité, puisque c'est la jeune fille qui est l'héroïne de ce roman, on va dire, tombe dans un piège d'un pédocriminel sur Internet. Il y a la question de la prostitution avec ton livre Une fille d'eux qui porte le regard d'une enfant de prostituée et comment elle vit cette situation-là et le regard des autres notamment. Et puis il y a aussi l'avortement dans Trop tôt. Enfin, en tout cas, c'est plusieurs thématiques qu'on retrouve dans différents romans. Est-ce que c'était important pour toi de parler de ces sujets-là aux adolescents? Et finalement, que permet la littérature et les romans que ne permettent pas d'autres moyens d'en parler? Parce qu'on peut se dire qu'il y a plein d'autres moyens de parler de ces sujets-là, des documentaires, des ateliers de sensibilisation. Finalement, quel est l'apport des romans
C'est vrai, d'ailleurs, j'ai écrit des documentaires, donc tous ces sujets-là, j'aurais pu les traiter sous forme de documentaires. Bah, parce que, en allant beaucoup en collège et lycée, de fait, mes lecteurs sont là. Et dans les conversations que nous avons, je me rends compte que quand il y a eu l'émotion, quand ils ont été touchés au cœur, comme je dis, que ce soit filles et garçons, les regards changent complètement. J'ai le souvenir d'un atelier d'écriture avec une classe de 3e, alors il y a quelques années. C'est avant le mariage légalisé des homosexuels, c'est avant hashtag MeToo. Donc on est quand même ailleurs, hein, et ça a été très vite. Mais il y a 8 ans, je me retrouve dans une classe, mais je parle d'homosexualité, et les garçons disent « Ah mais moi, si mon copain était homo, je ne serais plus jamais mon ami ». Voilà, il me dit ça. Séance d'après, me voilà partie, j'amène un petit court-métrage qu'avait réalisé, je pense que c'était le ministère de la Santé à l'époque, très bien fait, très chouette, sur un garçon en colonie de vacances, voilà, qui tombe amoureux, et une histoire d'amour vraiment, d'un jeune couple homosexuel. Je leur passe, et on en rediscute après. Et là, les propos avaient complètement changé. Ils étaient complètement émus par cette belle histoire d'amour. Il ne restait que ça. Et là, on voit la force de la littérature, là, c'est là où elle gagne. Quand on touche au cœur, le cerveau suit, généralement. Et il n'y a pas besoin de mots, et l'ado, en plus, va le faire tout seul, son chemin. La parole adulte, parfois, il s'en méfie. Alors qu'un roman, il est seul avec ce roman. Ça va se passer profondément en lui.
On lui raconte une histoire.
On lui raconte une histoire.
À laquelle il peut s'identifier.
Complètement. Aussi. Et puis on revient doucement vers la vraie vie. Et les questions reviennent ensuite. Et il se documente ensuite. Et j'aime bien de me dire que faire histoire pour donner à penser. Pour moi, les romans sont des outils à penser. Voilà. J'aime pas quand on dit littérature uniquement plaisir. Il y a ça en jeunesse aussi. Hein. Mmh. Parce que c'est de la littérature jeunesse contemporaine, ça devrait être une littérature plaisir. C'est sous-entendu non étudiée, non prise au sérieux aussi quelque part. Alors je pense que la littérature contemporaine, ce sont des outils à penser le monde contemporain pour les jeunes d'aujourd'hui. De la même façon que la littérature adulte. On lit et pas uniquement pour rigoler, hein. D'ailleurs, ce serait rare de rigoler avec un livre, à part Fab Caro qui nous fait rire avec la BD, quoi. Mais c'est le seul qui me fasse rire. Vraiment, j'éclate de rire dans mon lit en disant, mais on va voir autre chose, on va trouver autre chose en littérature. Mais les ados réclament la même chose que les adultes, c'est-à-dire des gifles, des coups de poing, des choses qui coupent le souffle, des parties de romans qui ne comprennent pas complètement, mais qui sont que musique du coup pour eux et parfois. Avec moi, j'ai toujours en fait parce que je parle sans doute aussi à l'ado que j'ai été, j'ai toujours une obsession de la simplicité, qui ne veut pas dire simpliste, mais je veux une littérature accessible. Je n'ai pas envie de faire ma maline. Je n'écris pas pour avoir un prix, clairement. Voilà.
Ce qui ne m'empêche pas d'en avoir.
Il y a une justice, en fait. J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose de sain, quoi. Mais vraiment, la première idée, ce n'est pas « Ah, regardez comme j'ai un sujet difficile et ça va me faire briller. » À partir du moment où tu as ça en tête, c'est foutu. Et je crois qu'il y en a quelques-uns qui l'ont et généralement, ça se sent. Moi, quand je les lis, c'est vraiment « je sens ». Et je me dis « il a voulu faire son malin, il a voulu faire sa manie ». Les ados ne sont pas... ils ne tombent pas dans le piège. En revanche, quand ils me disent « et c'était bien, c'était simple à lire », pour moi, c'est un très grand compliment, parce que c'est pas simple. Comme d'amener ces sujets vers eux, par exemple, j'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle, comment décrire en se disant qu'un ado de 14 ans peut lire une scène, juste une scène de viol, parce que la scène de mariage va forcément être une scène de viol. Comment décrire ça? Et là, je trouve que le travail est passionnant. Parce que là, on rentre en poésie et en littérature, justement.
Oui, et justement, cette question-là, ça me fait penser à quand on pense à la littérature pour la jeunesse, ça porte tout de suite un certain nombre d'enjeux, en quelque sorte, de ce qu'il faudrait faire, ne pas faire, dire, ne pas dire. Est-ce que, du coup, selon toi, il y a des règles, entre guillemets, implicites ou non, à suivre quand on écrit pour un public jeune, en termes de style d'écriture, de vocabulaire, de sujet traité?
Au niveau des sujets, je crois qu'il n'y a aucun tabou, puisque tout est dans leur téléphone, c'est-à-dire dans leur poche, aujourd'hui. Mmh. Hein. Ça, il faut bien en avoir conscience. C'est une révolution de l'éducation, aussi, pour les parents. On ne peut plus les protéger du monde. Le monde est dans leur poche dès l'âge de 10 ans, voire avant. Donc, ça aussi, ça a fait progresser l'écriture. Il faut une littérature à la hauteur de ça, hein. Sinon, hein, si on reste à « oui, oui, la princesse joue au milieu des choux », on va les perdre, les gamins, quoi. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on peut... pas les protéger, malgré tout. Alors, je dis souvent que j'écris des choses... j'écris le monde avec tendresse et à hauteur d'ado. Alors, comment je fais? Je me fais confiance. Le souffle est celui d'une fille de 15 ans, il faut l'avoir. Donc, il faut le retrouver, hein, parce qu'on ne va pas imiter l'ado. Il faut avoir 15 ans à ce moment-là. Mmh. Et être complètement, physiquement même, dans ses 15 ans, ce qui est très agréable à mon âge. Par ailleurs, j'ai le regard d'une adulte, bien évidemment. Je suis en plus maman, donc je l'ai été de... Maintenant, ils sont adultes, mais... Donc j'ai ce regard-là. Et je me dis souvent que j'ai une ado pas loin, ou un ado derrière moi, ou de temps en temps. Je me dis, tiens, je me retourne, tiens, je pense à quelqu'un que je connais, un jeune. Je me dis, est-ce que je pourrais lui dire comme ça? C'est assez simple, là. Du coup, on est protégé de ça. Comme quand j'écris un album, j'ai évidemment pas l'écrire de la même façon que quand j'écris un roman pour un ado de 15 ans. Et naturellement, l'adulte le fait. Je me dis, si je parle de la mort à un gamin de 4 ans, je vais inventer une histoire, c'est sûr. Il va y avoir beaucoup d'imaginaire. On va partir ensemble et on va trouver façon de parler de la mort. Peut-être on va parler d'un petit animal sur le bord de la route et dire que ben voilà, c'est comme ça. Et puis un ado, c'est autre chose. Et un adulte, on peut encore aller plus loin. Ça ne veut pas dire qu'on va plus loin d'ailleurs, ça veut dire qu'on dit autrement. Et ça, c'est de la bonne... c'est même pas intellectuel, je dirais que c'est de l'émotion. Il suffit de le sentir et de l'observer et c'est parti. Donc là, après, c'est très compliqué de dire comment on fait. Moi, je m'analyse pas le truc. j'ai pas envie de le faire. Et, mais je sais simplement que ce que je suis en train d'écrire est un roman jeunesse. Pour moi, c'est très clair. Je sais qu'il y a des auteurs qui ne savent pas, après avoir écrit le roman, s'ils peuvent être en adulte ou en jeunesse. Mmh. Pour moi, c'est très clair.
Et tu as déjà une idée de... Parce que pour la jeunesse, on va dire, c'est sûr qu'entre 10 ans et 15 ans aussi, c'est pas la même chose.
Vaste,
oui. Donc quand tu commences à écrire un livre, tu sais déjà à qui il s'adresse.
Oui, complètement. Ouais. C'est... Ben, en gros, trop tôt, une jeune fille enceinte à l'âge de 14 ans, je ne vais pas être en 9-12. Il y a du bon sens, hein, quand même. Mariage forcé, ça m'intéresse énormément de me dire, j'ai envie de faire histoire de ça, parce que je sais que mes lecteurs sont des futurs adultes et citoyens de demain, et que je trouve ça passionnant qu'ils lisent ça, que ça reste en eux, et que plus tard, s'ils ont des postes à responsabilité, sûr, ils se rappelleront cette petite fille, et que peut-être, ils pourront agir. Voilà, c'est assez politique pour moi, l'écriture jeunesse. Ça paraît fou. Mais mon engagement politique est là. Ça ne veut pas dire que mes romans le sont. En tout cas, ils donnent à voir la société et une société d'avenir, je l'espère, dans un temps du présent. Mais j'ai envie de les éclairer, ces gamins, de faire histoire de ce qui me semble pas terrible dans notre monde, tout en les faisant quand même rêver, les emportant, parce que c'est pas du documentaire, justement, c'est de la fiction.
Je trouve que l'une des grandes forces de tes romans, qui sont pour la plupart écrits à la première personne, alors il y a aussi ce jeu qui embarque, hein, on est vraiment dans la tête des personnages. Et donc en fait, je trouve que tu retranscris avec une grande justesse qui peut se passer dans la tête d'un, voilà, d'un personnage adolescent, une sorte d'intensité du rapport au monde, aux autres aussi, le regard des autres, la naissance du désir qui est quand même présente dans plusieurs de tes romans, une sensibilité qui est parfois exacerbée. Et finalement, voilà, ça parle autant aux adultes qui soit se remémorent l'adolescent qu'ils étaient, soit se reconnaissent encore actuellement comme ayant ces traits-là, ça peut arriver aussi. Et ça parle également aux ados, et moi je trouve que c'est quand même quelque chose de très impressionnant d'arriver, comme tu disais tout à l'heure, quand j'écris, il faut que j'ai 15 ans. Et donc finalement, comment tu fais pour avoir 15 ans quand tu écris? Quel est ton secret?
Je sais pas, je pense que je suis une adulte qui a... Je pense que tous les adultes, en fait, gardent cette part de l'enfance et de l'adolescence en eux. C'est juste nos vies qui les tuent un petit peu. Je veux dire, on rêve tous d'une formidable... Allez, échappée belle, amoureuse, d'un émoi... XXL, de fermer nos ordi et dire oh, merde, je travaille pas aujourd'hui, de pas se lever le matin et de pas faire cette foutue machine à laver. On rêve tous de glander, c'est pas, on les engueule, nos ados, il est midi, t'es pas debout, mais finalement, allez, et si on le faisait, nous, bon, il y a cette part-là en chacun de nous. Et je trouve que c'est un territoire de poésie aujourd'hui, ça. La littérature jeunesse, pour moi, c'est un territoire de grande poésie, d'écoute. Il y a beaucoup d'intelligence chez les jeunes et chez les enfants. Donc j'aime bien. Et puis j'ai un côté pas sérieux, moi. J'aime bien ce côté. C'est n'importe quoi. Enfin, je pars en vrille tout le temps. Il m'est impossible de me prendre au sérieux. Je suis sérieuse quand je travaille. Mon travail est engagé, sérieux. Je fais de mon mieux, le mieux que je peux à chaque roman. Mais derrière, je ne peux pas me prendre au sérieux. C'est pas possible. Et il y a quand même quelque chose dans l'organisation, un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, de notre littérature générale, qui est en train de bouger en ce moment. Il y a des petites révolutions qui se passent, donc qui me disent « Ah, peut-être je vais finir par un jour y aller. » Mais c'est pour ça que j'aime bien la jeunesse, parce qu'on a peu de place dans les médias, c'est pas si grave. Enfin, je veux dire, les sorties sont pas surmédiatisées, même pour les plus grands, les plus connus d'entre nous. C'est pas, on ne fait pas la tournée des télés, on ne fait pas la tournée des radios, on ne fait pas de tournée du tout, j'ai envie de dire. Et c'est pourquoi nous, avec Guillaume, mon conjoint, on s'est dit à chaque roman sorti, on se félicite, on boit une coupe de champagne, enfin on fait quelque chose, parce que c'est un non-événement quelque part. Et c'est terrible d'ailleurs. Évidemment, avec l'éditeur, on s'en réjouit, mais il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ce tralala autour. Et c'est peut-être ce qui fait notre grande liberté de création.
Et tu évoquais tout à l'heure du coup d'avoir écrit pour les tout-petits. C'est vrai qu'on a surtout parlé là pour l'instant de tes livres pour adolescents. Et en fait, voilà, on a une autre personne du collectif qui s'appelle Perrine, qui a lu quelques-uns de tes albums jeunesse et qui avait des questions à te poser à ce sujet. Alors, on va l'écouter.
Vous avez écrit l'album jeunesse Mes petites peurs avec Christine Rousset, qui, elle, a réalisé les illustrations. C'est donc un album à destination des enfants, qui présentent différentes angoisses qu'ils peuvent ressentir et aussi des manières de les affronter. On suit une petite fille qui nous présente au fil des pages ses peurs et la façon dont elle arrive à les surmonter, notamment avec une bonne dose d'humour et d'imagination. C'est un album très poétique et très humoristique, tant dans les illustrations que dans le texte, qui se complètent très bien. J'aimerais vous poser deux questions au sujet de cet album. Pourriez-vous nous parler de la collaboration entre un auteur et un illustrateur ? J'imagine que c'est différent pour chaque projet, mais par exemple, pour l'album Mes petites peurs, est-ce que les illustrations sont venues répondre au texte ou est-ce que le texte et les images ont été pensées ensemble ? Comment est-ce que vous avez travaillé en duo pour confectionner cet album ?
Le rapport auteur-illustrateur passe souvent par l'éditeur, en tout cas pour moi. Là, c'était le texte d'abord, et puis l'éditrice à la Martinière s'est dit « bon, bah qui ?» On a cherché longtemps, et puis un jour, elle m'a donné un petit dessin que Christine m'a donné la dernière fois. Un petit dessin. Christine débutait vraiment en tant qu'illustratrice. Et j'ai vu ce dessin et on s'est toutes dit « mais c'est la petite fille, ça ne peut pas être une autre illustratrice ». Et depuis, Christine a explosé, une merveilleuse illustratrice. Ce qui est génial avec elle, c'est qu'on n'a pas besoin de se parler des heures. Elle a pris mon texte, elle a lu beaucoup, elle a oublié. Je sais qu'elle fait comme ça, elle oublie un ou deux mois. Elle revient dessus, elle dit « qu'est-ce qui me reste ?» Non seulement elle pense aux illustrations, mais elle pense aussi à l'objet livre, parce que pour chaque livre, je te montrerai tout à l'heure, mais il y a des découpes particulières, il y a l'objet qui va avec. Donc elle essaie de revenir à l'essentiel. Pour les peurs, elle a eu l'idée, c'est assez beau, que la petite fille au début est assise sur une énorme boule verte, un peu gluante comme ça, une énorme boule de peur. Et plus au fil des pages, à la fin, c'est une plus petite boule verte qui en plus est phosphorescente si on est sous la lumière le soir. Donc elle a une belle poésie, on se ressemble beaucoup. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on se ressemble assez en fait, avec les auteurs illustrateurs avec qui je travaille, il y a quand même une connexion souvent. C'est l'éditeur qui nous met en contact. On se rencontre souvent. Christine, après, je l'ai rencontrée au bout du troisième album.
Ah oui.
Et on a beaucoup avant. De points communs dans l'humour, l'hypersensibilité, le rapport à l'émotion. Donc voilà, pour répondre, c'était une longue réponse aussi, mais c'est pas que cet album-là. Et c'est une collaboration de 10 ans avec Christine. On vient de faire le dernier qui s'appelle Dans mon sourire. Et on ne savait pas qu'on allait être masqué quand j'ai écrit ce texte. C'est incroyable.
Ah oui.
J'ai écrit ce texte il y a 3 ans. On a mis 2 ans à sortir le bouquin. Donc Dans mon sourire, c'est fait avant d'être masqué. Ouais.
J'aimerais que vous nous parliez de l'écriture à destination des enfants, car c'est un public différent des adolescents. Comment est-ce que vous arrivez à traiter un sujet d'une manière qui parle aux enfants ? Comment est-ce que vous sentez que vous êtes sur la même longueur d'onde que votre public ?
À nouveau, faut avoir... Enfin, pour moi, hein, ça c'est vraiment, je réponds à mon nom. Mais à nouveau, j'ai 5 ans. Enfin, j'ai 15 ans. C'est simple. J'ai 5 ans et je revois les 5 ans de mes enfants, parce qu'il y a aussi ce regard de mère, il y a ce regard d'enfant que j'ai été, le regard de la maman sur ses enfants. Donc c'est les deux. Parce que je sais que ce sont les parents ou ceux qui prennent soin des enfants qui vont lire. Donc quand on écrit un album, on a un double lectorat. Mmh. Celui qui va mettre en bouche nos mots, il faut qu'il s'amuse. Moi j'aime l'idée que les parents s'amusent en lisant mon texte, que ce soit gourmand en bouche, que ça les ramène eux-mêmes. C'est une invitation à revenir vers leur propre enfance. Je sais que beaucoup de parents ont du mal à lire au départ et se sentent un peu bêtes au temps de lecture. Ça s'apprend, ça aussi, finalement. On devient parent en lisant des histoires. Et au début, on est un peu pudique, on se sent un peu comme ça, idiot, à partir en... Ah, non, non, non. Et puis, finalement, simple. Et c'est pourquoi je travaille à l'oreille, l'album. Mais c'est vraiment là, à l'oreille, là. C'est, pour moi, c'est très, très musical. Et je le lis et je le relis. Et je me dis, l'album, j'invite le parent, s'il suit le texte, il va s'amuser. Laissez tomber la tête, justement, l'intellect. Il va juste s'amuser avec son corps, avec sa voix. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Ou tiens, je prends une voix un peu bizarre. Ou tiens, je surjoue la peur. Allez, je m'amuse avec ça. Il faut s'amuser. Et à partir du moment où on s'amuse, ou au contraire, c'est très émouvant, mais il faut que ce soit brut, simple, pas calculé. Et là, l'enfance revient. Donc, c'est ce travail-là que j'essaie de faire. Et souvent, c'est non, trop écrit, trop adulte. Et en même temps, il faut que ce soit écrit. Mais, et là, c'est vraiment ouais, c'est un travail à l'oreille. C'est pas du tout. Alors là, je pose mon cerveau, clairement. C'est juste, à un moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai les poils. J'ai la chair de poule, j'ai les yeux qui brillent, je sais que c'est juste. Voilà, c'est tout.
Ouais, c'est très connecté.
Et je ne peux pas l'analyser.
À l'intérieur.
Derrière, les autres analysent. Et une fois, j'ai assisté à une conférence d'un professeur qui s'occupait de la formation des enseignants. Et il montrait comment il travaillait avec mes albums. C'était magnifique. Je n'imaginais même pas qu'il y avait tout ça dans mes albums. C'est pas du tout conçu, c'est pas du tout voulu de ma part. Cette part instinctive et non intellectuelle, je trouve qu'elle est pour moi très nécessaire. Et derrière, les autres font le travail. Et si le cœur est là, l'intelligence est là. Mais ça, on le dit rarement. On croit toujours que si l'intelligence est là, le cœur est là. Mais non, pas forcément. L'émotion n'est pas forcément au rendez-vous. En revanche, si c'est entier, instinctif, intuitif, musical, généreux, je dirais presque aimant pour l'enfant qui va lire, il y aura de l'intelligence.
C'est d'abord, oui, voilà, l'intelligence vient après ce qui nous connecte en premier lieu, l'émotion.
Et... Il me semble, ça ne veut pas dire que je ne pense pas quand même à ce que je vais dire, quand même, mais c'est pas construit du tout de la même façon qu'un gros roman, un thriller, par contre, qu'un casse-tête chinois de construction, je veux dire. Ouais. C'est pas du tout le même travail. C'est vraiment des territoires tellement différents, mais c'est toujours un travail d'auteur. Et c'est ce que j'aime en jeunesse. Quand j'écris un gros roman, là, tu vois, dans le panier, là, il y a toute ma documentation du dernier.
Ouais.
Une partie. J'aime bien mettre ça dans des paniers parce que ça me montre... Ah bah tiens,
C'est un gros panier, pour ceux qui nous entendent.
Je veux dire, c'est là, j'ai besoin que ce soit matérialisé, tu vois, que ce soit là, plus après tout ce que j'ai pu prendre. Mais il y a quand même des livres qui a été au cœur de la construction, et là. Et j'ai besoin de le voir, pour quand je vais faire mes relectures. En plus, si j'ai besoin d'y revenir, tout est classé au même endroit. Pour un album, il n'y aura rien. Enfin, je peux travailler au café... Je peux travailler n'importe où. J'ai même travaillé, il y en a un que j'ai écrit complètement dans l'avion.
Ah oui.
Au-dessus des nuages. C'est dans la boutique de Madame Nou. Voilà. Et ça, par exemple, dans la boutique de Madame Nou, voilà d'où est partie l'histoire. Je veux dire, quand même, d'où ça vient, ça peut être intéressant aussi pour d'autres auteurs. Une copine, un jour, en salon du livre, je lui dis, c'est Raphaël Frière, je la nomme, elle est autrice. Je lui dis, Raphaël, je vais la saluer. Elle me dit, attends, je fais un câlin et puis je reviens. Je trouve cette phrase, on n'était pas encore en mode Covid. Hein. Je trouve cette phrase incroyable. Je fais un câlin, puis je reviens. Je lui dis, oh, allez, j'adore sa phrase, je peux la prendre. Elle me dit, oui, je te la donne. Je la mets dans mon carnet. Et puis, voilà, j'ai écrit cette histoire. La petite fille n'arrête pas. Sa maman n'arrête pas de. Sa maman fait des câlins aux gens, en fait. La boutique de Madame Nou, c'est une femme soignante, une femme qui donne de sa tendresse humaine. Et les gens viennent chez elle, et il y a toujours du monde. Et sa petite fille veut lui parler, elle n'arrête pas de dire « Attends, je suis encore deux câlins à faire et puis je reviens. » Finalement, elle en oublie, sa petite fille, à force de donner aux autres. Et bien ça, j'ai entendu une phrase. Donc voilà, comme le processus, c'est j'entends cette phrase, je la note. Et puis 2 ans plus tard, je suis dans l'avion qui m'amène au Maroc. Je suis au-dessus des nuages et je dis « Et si j'écrivais maintenant cette histoire ? » Ça me semble pas mal. Et je l'écris le temps d'un vol. Donc c'est 2 heures de temps en fait, mais j'y ai pensé depuis 3 ans à cet album. Quelque part, il était dans ma tête. Mais quand je l'écris, ça doit aller vite. Il y a quelque chose d'évident avec l'album pour moi.
C'est intéressant cette idée de gestation finalement d'une idée avant qu'elle sorte. Et c'est aussi ça qui nous intéresse au niveau du collectif, de comprendre un petit peu les... Finalement, je pense que chaque personne, chaque auteur, chaque autrice qui a sa façon d'écrire, sa façon de commencer une histoire. Et puisque ce podcast s'adresse aussi à des personnes qui écrivent, je voulais te demander finalement, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à des jeunes auteurs, enfin jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais des auteurs qui commencent, qui débutent et qui aimeraient écrire pour la jeunesse?
C'est toujours difficile les conseils. Moi, je fais des conseils Le conseil principal, c'est de se faire confiance. C'est difficile de se faire confiance aujourd'hui, je trouve. Surtout quand on échoue, et dans notre métier, il y a beaucoup d'échecs, comme dit Genet, échoue encore et tu écriras mieux. J'adore cette phrase. C'est... Donc à la fois, les moments d'échec sont là, on doit les accepter, les manger, les digérer, mais ne pas perdre sa confiance et ne pas essayer de faire, en gros. Si tu veux faire un chef-d'œuvre, c'est mort, quoi. Tu vois, fais n'importe quoi, ça donnera forcément quelque chose de chouette. Creuser dans le chaos, ne pas savoir quand, est-ce que je pars sur un truc de 10 ans ou de 6 mois ou dans 2 mois, c'est plié, le rapport au temps. De toute façon, aujourd'hui, je vis de ça, j'ai toujours l'impression de voler mon temps d'écriture. C'est un temps qu'on ne nous donnera jamais. D'ailleurs, on n'est pas payé pour écrire, on ne sera jamais payé pour écrire. On est payé sur, après, les avances, sur nos ventes. Mais la création littéraire n'est pas payée, n'est pas rémunérée. Contrairement à la création du spectacle vivant, par exemple. Et c'est peut-être tant mieux, voilà, je ne sais pas. Il faut toujours faire entre deux boulots, truc. J'en ai un deuxième, j'ai des enfants peut-être en plus. Et ce temps, je le vole. Aujourd'hui, je ne fais que ça. Je vis même de mes droits d'auteur. Je pourrais me dire, je ne fais que ça. Mais pas du tout, je suis toujours en train de courir, je fais des lectures musicales, et je vais voir des gens, je rencontre des gens. Parce qu'aujourd'hui, le livre, c'est être avec les autres aussi. Il n'y a pas de littérature si tu ne partages pas. Et quand tu écris, les gens ont envie de partager avec toi. Et toi, tu as envie de partager avec eux. Alors, tu as aimé ce livre, qu'est-ce que tu as pensé? C'est bien normal. Mais, donc, je dirais, à un moment, il faut tout oublier, même nos modèles. Parce que c'est terrifiant, les modèles. Évidemment, quand on a des auteurs qu'on admire, qu'on adore, on se dit mais qu'est-ce qui me prend d'aller écrire ? Mais là n'est pas le projet. Le projet n'est pas de ressembler ni de faire aussi bien qu'eux. On ne fera jamais aussi bien qu'eux parce qu'on n'est pas lui ni elle. Moi, là, tu vois, il y a Marguerite, là, Duras, elle est toujours là. C'est un copain, Marc Dagnou, qui l'a dessiné. Et de temps en temps, je lui parle comme une vieille tante, quoi. J'ai jamais connu, hein, la pauvre. Mais je l'admire. Je l'admire pour sa liberté. Voilà, côté monstrueux de Marguerite Duras, à un moment où les femmes n'avaient pas le droit d'être monstrueuses. Elle est insupportable et tout. Elle arrive avec sa langue, elle s'en fout, elle continue. Elle est excessive et en même temps touchante. Quand je l'entends dans les vieilles émissions de radio, là, je suis bouleversée comme elle. Elle est lumineuse, quoi. Et évidemment, je ne serai jamais Marguerite Duras parce qu'elle est morte et qu'elle était elle. Mais elle m'aide. Voilà. Donc je pense qu'aussi la fraternité, la sororité, les auteurs se tirent pas tant dans les pattes que ça. Au contraire, je trouve. Il y a une vraie... faut pas hésiter à faire lire, à dire nos problèmes aussi, là où on n'y arrive pas. À rendre ça plus simple, je pense. Parce que c'est un voyage intérieur, en réalité. C'est une route personnelle et qui n'a rien à prouver.
J'avais une question à la base sur la situation des auteurs, mais au final, je me dis que c'est tout aussi bien de rester sur ce message que tu nous donnes là. Donc finalement, j'avais envie, peut-être pour terminer un petit peu plus cette interview, de citer Effie, donc le personnage de ton dernier roman, qui nous dit à la fin du livre « Mon récit s'achève ici, celui que je colporte depuis 5 ans déjà, et avec l'espoir fou de faire changer les choses, mon enfer d'hier est devenu mon combat d'aujourd'hui. » Donc pour Effie, raconter son histoire, c'est déjà pour elle une façon d'agir et une façon de vouloir un petit peu changer les choses, apporter sa pierre. Et donc j'ai un petit peu envie de te retourner la question. Et est-ce que pour toi aussi, écrire, raconter des histoires, c'est une manière d'agir pour changer les choses ? Est-ce que c'est ton moteur dans l'écriture ?
Oui, c'est se changer aussi, c'est aller à la rencontre de soi. C'est d'abord ça, l'écriture. Et là, c'est un voyage magnifique, hein. pas simple. On traverse des forêts effrayantes, des grands moments de solitude. Mais un roman amène vers soi un peu plus, et puis vers les autres. Et je pense vers l'envie... Il y a quand même ce qui est très beau en littérature... Je trouve dans le roman, c'est que ça dit toujours un regard sur le monde, dans cette temporalité du monde. si on regarde à la fin du 19e, enfin, on voit bien que le couple, par exemple, il explose, enfin, que les femmes sont en train de crever quand même, entre Emma Bovary, après il y a, comment il s'appelle, Mauriac aussi, avec sa d'Esquerou qui empoisonne, enfin, elle s'empoisonne, on s'empoisonne, enfin, on est empoisonné, quoi. Enfin, tu vois. Et ça, c'est assez beau avec le regard après de se dire, oh là là, mais oui, ça dit quelque chose du monde, de cette société. En tout cas de la place de la femme aussi largement dans le choix de ces héroïnes là. Donc bien sûr on écrit, tous les écrivains du monde je pense écrivent pour changer le monde, bah, sinon s'ils étaient heureux autour d'une piscine en mangeant des petits fours et que tout allait bien pour eux dans le meilleur des mondes, s'ils étaient de cette espèce là d'humains, ils n'écriraient pas. Je pense qu'il faut un mal-être, une révolte, un désaccord total, beaucoup d'indignation pour écrire. Sinon, quand on parle de la panne d'écriture, là, souvent les gens demandent, je dis, mais c'est juste quand je suis apathique, quoi. Voilà, la panne d'écriture, c'est j'ai plus le désir, ou parce que la santé ne va pas, ou. Mais sinon, il faut être indigné, oui, je pense. Donc, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose. Enfin, moi, en ce qui me concerne, moi, de façon complètement prétentieuse, ouais, j'ai envie de sauver le monde avec un petit roman et de me dire, c'est une goutte, mais c'est une bien jolie goutte que. Je préfère celle-là En fait, c'est là que moi, j'ai trouvé ma place. Après, il y en a d'autres, ils vont s'engager politiquement. D'autres vont partir sauver les gens aux quatre coins du monde, s'ils sont dans le médical. Mais en tout cas, ce sont les romans que j'aime lire, ceux qui m'éclairent sur la société dans laquelle je vis, qui me donnent envie d'avenir. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose... quand même, dans la littérature, qui nous ouvre à la lumière, même dans le pire des romans terribles. Chez Dostoïevski, il y a beaucoup de lumière, par exemple. Mmh. Putain, c'est pas foufou. mais quelle lumière! Toujours, il y a une envie de vivre, quoi. Mmh. Finalement, même dans les plus désespérants des romans, je trouve que... Même chez Sioran, quoi, qu'on a envie de se pendre, et tout à coup, moi, j'ai une envie de vivre, quand même. Quand je ferme les pages, je me dis, allez, ouais. Et en jeunesse, bah, y a ça aussi, je trouve, même ça, quand j'ai envie de les inviter à... Même si les sujets sont durs, je dis toujours, c'est pas moi qui suis dure, c'est pas mon écriture qui est rude. Au contraire, j'essaie d'y mettre de la tendresse. C'est le monde qui est rude. C'est le monde dans lequel on vit, c'est pas si simple de vivre. Donc, un roman peut... Enfin, je sais que c'est complètement banal, mais... Dernièrement, j'ai vécu des choses très dures et... Et à part la littérature, il n'y a pas grand-chose qui m'aidait. Donc, je vais poursuivre avec ça, je crois.
Merci beaucoup, Jovitec, d'avoir accepté cette interview, d'avoir répondu si richement. Je pense que voilà, c'est plein d'enseignements et c'est plein de tendresse et de joie. Donc, ça fait du bien aussi en ces temps. Merci et puis à bientôt, voilà, une prochaine fois. Et puis pour vous qui nous écoutez, merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain épisode.